Pour les femmes noires, le nouveau savoir s'élabore rarement dans l'isolement et se construisent plutôt par l'échange entre les membres de la communauté. Le recours au dialogue pour les évaluer s'appuie notamment sur l'idée selon laquelle l'établissement de liens est plus efficace que la séparation pour le processus de validation épistémologique. La pratique du dialogue plonge ses racines dans une tradition orale d'origine africaine et dans la culture africaine-américaine. Ruth Chase a montré l'importance prise par le dialogue dans le processus de validation du savoir aux yeux des Africains-Américains réduits en esclavage. Ils repéraient un mensonge, quitte à y passer l'année. Les anciens trouvaient la vérité parce qu'ils écoutaient et qu'ils faisaient répéter aux gens leurs histoires. La plupart du temps, les mensonges s'entendent. Ces vieux étaient partout et ils connaissaient la raison secrète de nombreuses disputes. Ils pensaient qu'un menteur doit payer pour ses mensonges et ils connaissaient toutes sortes de moyens d'amener les menteurs à être jugés. La pratique courante du discours sous forme de questions-réponses chez les Africains-Américains illustre l'importance qu'ils attribuent au dialogue. Composé d'interactions verbales ou non-verbales entre le locuteur et l'auditeur dans lesquelles toutes les déclarations ou appels du premier sont ponctués par les réponses du second, ce genre discursif noir imprègne la culture africaine-américaine. La condition fondamentale de ce réseau interactif est la participation active de tous les individus. Pour que les idées soient validées et mises à l'épreuve, il faut que chaque membre du groupe participe. Le refus de se joindre à l'échange est interprété comme une tricherie, surtout lorsqu'il est motivé par un désaccord réel avec ce qui a été dit. Dans son analyse de la langue anglaise telle que la parlent les Noirs, Jones Jordan souligne l'importance de cette épistémologie alternative. Notre langue est un système construit par des gens qui doivent rappeler en permanence qu'ils existent. Notre langue vient d'une culture qui aborde toutes les abstractions, tout ce qui tend à obscurcir ou à effacer la réalité de l'être humain tel qu'il existe ici et maintenant, la vérité de la personne qui est en train de parler ou d'écouter. Par conséquent, la construction passive constitue une impossibilité dans la langue anglaise noire. Par exemple, on ne peut pas dire « l'anglais noir est en train d'être éliminé ». On devra dire « les blancs sont en train d'éliminer l'anglais noir ». La présence de la vie est un postulat fondamental pour l'anglais noir. Chaque phrase présuppose la participation vivante et active d'au moins deux êtres humains, le locuteur et l'auditeur. Beaucoup d'intellectuels noirs expliquent que la pratique du dialogue tisse des rapports et des liens. Interrogé sur le choix de ses thèmes d'écriture, la romancière Gail John répondit: j'étais intéressé par les traditions narratives orales afro-américaines et autres dans lesquelles on est toujours conscient de la présence de l'auditeur et de son importance. Décrivant la différence entre les auteurs masculins et féminins quant au choix des événements et des relations dont ils rendent compte, John relève que depuis les récits de l'esclavage, beaucoup de femmes écrivaines s'attache à décrire l'importance et la complexité des relations au sein de la famille et de la communauté. Elle s'intéresse aux relations entre hommes et femmes ou entre femmes et femmes, alors que pour les hommes, les relations importantes sont souvent celles qui impliquent des confrontations qui se nouent en dehors de la famille et de la communauté. La réaction d'Alice Walker, au livre de Nora Neale Hurston, News and Mail, illustre également comment le dialogue peut servir à évaluer un savoir. Au lieu d'adopter une position d'observatrice détachée vis-à-vis des histoires et des contes qu'elle a recueillis, Hurston a en effet choisi de rapporter de longs dialogues avec les gens des communautés étudiées, se plaçant ainsi au centre de son analyse. C'est en utilisant un procédé similaire que Walker met à l'épreuve la validité du savoir de Hurston. Neale and Mail m'a enchanté. J'ai trouvé ce livre tellement parfait. J'ai immédiatement testé cette perfection en utilisant mes parents comme cobayes. Ce sont des Noirs américains si représentatifs qu'on peut les mettre à contribution pour toutes sortes d'enquêtes politiques, culturelles ou économiques. Originaires du Sud, ils ont rapidement oublié leur héritage culturel sudiste après s'être installés dans les banlieues et les ghettos de Boston et de New York. Ils ont lu le livre par eux-mêmes, m'ont écouté en faire la lecture, se sont mutuellement fait la lecture et c'était comme retrouver un paradis perdu. La place qu'elle occupe dans les églises et les familles assure aux femmes noires le soutien des institutions de leur communauté lorsqu'elles présentent le dialogue comme une des dimensions de l'épistémologie féministe et afrocentrique. Toutefois, quand les Africaines américaines passent par le dialogue pour évaluer le savoir, elles se réclament aussi d'une conception du savoir typiquement féminin. Les universitaires féministes soutiennent que la socialisation des garçons et des filles au sein de la famille les prépare à des modes d'autonomie différents. Le premier, masculin, fondé sur la séparation, le second, féminin, sur la capacité à tisser des liens et que cette différence se trouve dans les manières de connaître masculine et féminine. Par exemple, au lieu de recourir aux métaphores visuelles récurrentes chez les scientifiques et les philosophes, le savoir est une illumination, connaître, c'est voir et la vérité est lumière. Les femmes ont plutôt tendance à fonder leurs prémices épistémologiques sur des images de paroles et d'écoute.